sur la côte vendéenne. Il est 21h.
Neptune FM.
Écoutez et découvrez. Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Ciao, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler, on va repasser à un rythme normalement plus normal, donc toutes les semaines. Et du coup, je reprends des émissions un peu moins condensées en chronique et présentation de manga. Donc cette semaine, je vais vous parler de l'artiste Taira Yo. On parlera de trois mangas des éditions Kiun. On aura la chronique du volume 18 de Carnaval, la présentation de L'île errante et la chronique du volume 12 de Cesare. On aura ensuite un petit point sur les sorties mangas de la semaine. On parlera culture avec un tribunal japonais qui a reconnu de nouvelles victimes pour la bombe d'Hiroshima. On aura ensuite une actualité au Japon si vous n'êtes jamais sorti de votre grotte. Peut-être que vous n'avez pas entendu parler de tout ça, mais le Premier ministre Shinzo Abe a démissionné. Voilà, enfin, il a annoncé sa démission. Et on finira avec une petite news musicale en parlant de Tokyo Jien qui a sorti un nouveau single digital intitulé Aka no Dome. On commence donc avec la première chanson de l'émission, c'est Nageta de Mike, et on viendra juste après pour parler de l'artiste Taira Yo.
To me, girl.
Donc c'était Mike avec la chanson Nagueta. On passe maintenant à la présentation de l'artiste Taira Yo. Donc c'est une parolière et chanteuse japonaise de hip-hop, pop, R&B et soul qui est en activité depuis 2006. La passion de Taira Yo pour le monde de la musique lui vient de son père, avec de grandes références telles que Bobby Blue Band, Junior Wells, James Cotton, GB, Stax, Ray Charles, Stevie Wonder, Rhythm & Blues, Luther, Anita Baker et j'en passe. Donc toutes ces références lui ont donné envie, quelques années plus tard, d'intégrer une grande académie de musique située à Los Angeles, où elle y pratique durant plusieurs mois la culture hip-hop tout en continuant ses études. Par la suite, après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle repart au Japon pour écrire et composer le titre Juicy pour la chanteuse Kodakumi. Puis c'est en 2007 que Taira Yo sort son premier album intitulé Soul Sailing. Donc côté discographie, elle a sorti deux albums, Soul Sailing le 21 février 2007 et le dernier c'est Ikkyo Yo to Ikkyo, qui est sorti le 3 novembre 2010. Elle a participé à trois OST. Donc on a Gintama Best 2 en 2011 et To Love Through Darkness Second Duet Song en 2015. Et elle a aussi écrit, alors on n'a pas beaucoup de choses pour sa discographie à elle en tant que chanteuse, mais du coup elle a écrit beaucoup de chansons pour plein de gens. Et donc elle a aussi composé les paroles, écrit les paroles de deux génériques d'anime, donc Sakurane pour l'anime Yorinuki Gintama-san en 2011 et Don't Look Back pour l'anime Cardfight Vanguard G Gear Crisis N, qui est sorti en 2015. Voilà, donc du coup, on va s'écouter tout de suite deux chansons que Taira Yo a écrites. On commence avec Sakurane, interprété par Pico, qui a servi de quatrième ending pour l'anime Yorinuki Gintama-san, et on reviendra juste après pour la chronique du manga du volume 18 de Carnaval.
Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM. Get down, everybody.
だってねが笑ってきっとかなわないエヴァ憧れのムービースターなれたらどうするん大統領 Get funky 楽しまなこっちか Be happy ゲラゲラ笑え Hey Party Party We like the party ガビトリも花火のどんならかしこ
素直になれ Love with us 悩まないで
これ踊る Love with us とりあえず
You raise me up, bro 口なんか GG GO 運気上げて enemy の前にも
Yeah, all day
さあポジティブに行こう
Get funky
なるようになれ
I'm okay
心配なんかしないで
Party, party, party
Keep in touch 千年内大将 Yeah, yeah, don't
気が向いたら love with us いつでも OK
思い切って love with us そぼか Yeah, いつまでもうつむいてちゃダメ
avec la chanson Be Happy qui a été écrite les paroles par Taïra Yo. On passe maintenant à la chronique du volume 18 de Carnaval. Donc je rappelle que c'est un josei de genre action-aventure qui a été écrit par Mikanagi Tuya et prépublié dans le comic Zero Sum. La version japonaise est parue aux éditions Ichijinsha avec un total de 25 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue aux éditions Kiun avec pour le moment 23 tomes de sortie. Ce volume 18 est paru le 7 décembre 2017 au prix de 7,65€. Le résumé de ce tome, tandis que son équipe enquête sur la provenance d'échantillons contenant des cellules Vargas, Yogi fait la rencontre d'une jeune fille dont la simple vue suffit à le bouleverser. Dans un état second, le fantassin disparaît sans laisser de traces. Inquiets, ses compagnons ne tardent pas à découvrir la véritable identité de la demoiselle. Mais il est peut-être déjà trop tard. Qui sait de quoi Yogi est capable maintenant que la digue qui retenait ses souvenirs s'est rompue ? Parti à la recherche d'informations sur des échantillons concernant les cellules Vargas, nos héros perdent la trace de Yogi qui disparaît subitement après avoir croisé une jeune fille qui ravive en lui d'anciens souvenirs enfouis profondément. Désormais, sa seconde personnalité, bien plus dangereuse, s'est réveillée et a repris le contrôle. Ses camarades doivent alors rapidement le retrouver et pour cela, il faudra compter sur les remarquables capacités de Nai. Ici, l'auteur ne se disperse pas et se concentre sur un seul et même événement, le réveil de la seconde personnalité de Yogi. Donc vous l'aurez compris, ce tome sera exclusivement consacré au joyeux fantassin de Circus, qui replonge dans son passé en retrouvant sa sœur disparue depuis des années, un passé douloureux qu'il avait laissé de côté, enfoui tout au fond de sa mémoire. Après un léger temps d'incompréhension, sa sœur, elle aussi, la princesse Mewmall, va se remémorer les instants passés ensemble dans la joie et l'innocence, avant d'être frappée par le drame qu'ils ont vécu. Nous avons donc là un tome qui, tout en étant dynamique et rythmé, et qui se lit donc très rapidement, se veut aussi et surtout touchant et grave. Il est d'autant plus intéressant que Yogi est sans doute, parmi tous les personnages de la série, le plus amusant, le plus touchant, le plus attachant et le plus intéressant. Nous n'avons donc aucun mal à nous laisser guider par l'auteur dans la quête de son passé. Les autres personnages sont donc quelque peu en retrait, même si le salut viendra de Gareki et de Nai, le premier aidant et motivant le second à utiliser pleinement ses incroyables capacités pour permettre de retrouver leur ami perdu physiquement, mais également mentalement. Nous avons donc là un tome vraiment plaisant et séduisant, s'intéressant à un personnage qui l'est tout autant. Voilà, donc Carnaval à retrouver aux éditions Kiun. On va s'écouter tout de suite le premier opening de l'anime Carnaval. C'est Enai no Rondo de Grand Rodeo et on reviendra juste après pour la présentation de L'île errante. Donc c'était Grand Rodeo avec la chanson Enai no Rondo qui a servi de premier opening pour l'anime Carnaval. On passe maintenant à la présentation du manga L'île errante, du titre original Boken Erekiteto. Alors, c'est un seinen de genre aventure, mystère, tranche de vie, qui a été écrit par Tsuruta Kenji, traduit par Géraldine Houdin, et prépublié dans le Afternoon. La version japonaise est parue en 2010 aux éditions Kodansha avec deux volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue le 7 septembre 2017 aux éditions Kiun, dans leur collection Latitude, le grand format, avec également deux tomes de sortie. Vous pourrez retrouver L'île errante dans le commerce pour un prix de 15€. L'âge conseillé pour le lire est de 14 ans et plus, et il n'existe pas d'adaptation en animé. Entre ciel et mer, à la poursuite de l'impossible. Alors, Mikura Amelia est une des rares pilotes à s'occuper des livraisons entre les îles éloignées de la préfecture de Tokyo. À bord de son hydravion, elle est un lien précieux entre les villages de pêcheurs et connaît la mer environnante comme sa poche. Élevée par son grand-père, elle se retrouve seule après sa mort, avec pour seul héritage sa maison et ses affaires personnelles. Mikura y découvre alors une pile de carnets de notes et un courrier adressé à une Madame Amelia sur l'île d'Electricitate. Sauf que cette île n'existe sur aucune carte. Certains affirment l'avoir vue apparaître tout à coup au milieu de la mer et disparaître aussi vite, comme par enchantement. Réalité ou illusion, peu importe, Mikura décide de reprendre le flambeau de son grand-père. Elle se donne pour mission de retrouver l'île et de livrer le mystérieux courrier coûte que coûte. Après Spirit of Wonder et Forget Me Not, le talentueux Kenji Tsuruta signe une nouvelle fable dans un univers à la frontière du réel et du fantastique. De sa patte graphique inimitable, il nous emporte dans une aventure de longue haleine, aux côtés d'une héroïne aussi têtue que courageuse. Poétique, palpitant, drôle, L'île errante vous fera croire à l'impossible. Voilà, donc L'île errante à retrouver aux éditions Kiun. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Not That Kind of Person de Empire, et on viendra juste après pour les sorties manga de la semaine.
Bye.
Donc c'était Empire avec la chanson Not That Kind of Person. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Donc on aura des sorties pour mercredi 2 septembre avec aux éditions Glénat le volume 22 de Inomaru Sumo, le volume 5 de Artiste, un chef d'exception, le volume 12 de Dr. Stone, le volume 3 du Chat aux 7 vies, qui sera le dernier tome de la série. On aura le volume 3 de Shadow House et le volume 8 de Tokyo Revengers. Aux éditions Kaze, on aura le volume 15 de Beyblade Burst, le volume 4 de Chainsaw Man, le volume 10 de Jagan et le volume 1 de Tokyo Shinobi Squad. Aux éditions Nobinobi, on aura la sortie du volume 1 de Cléopâtre, le volume 2 de Fairy Tail Bloomistral, la nouvelle édition, et on aura le volume 1 de Napoléon. Voilà, donc si vous voulez refaire votre culture historique, vous avez Cléopâtre et Napoléon qui sortiront aux éditions Nobinobi. Ensuite, aux éditions Soleil, on aura les volumes 1 des aventures de Kirby dans les étoiles, les volumes 1 et 2, je ne sais plus si je l'ai dit, voilà. On aura aussi, alors là c'est réservé aux sorties manga jeux vidéo, on aura le volume 1 de Splatoon Histoire Poulpe et le volume 9 de Splatoon tout court. Ensuite, aux éditions H2T, on aura le volume 1 de Magnus Opus et le volume 2 de Rasetsu Primal Hunt. Aux éditions Pika, on aura le volume 1 de Mashima Heroes, le volume 3 de Orient Samurai Quest, le volume 10 de Origin qui sera le dernier tome de la série, le volume 8 de Our Little Secrets qui sera également le dernier tome de la série, le volume 11 de Real Girl, le volume 9 de Romeo vs Juliet, le volume 1 de So I'm a Spider, So What, un peu bizarre comme titre, le volume 22 de UQ Holder, le volume 2 de Vampire Dormitory et le volume 13 de Waiting for Spring. Et aux éditions Casterman, on aura le volume 41 de Skip Beat et le volume 5 de Skywars. Ensuite, pour jeudi 3 septembre, aux éditions Kiun, on aura la sortie du volume 1 de Alpiz Soul Sender, le volume 12 de Beastars, le volume 6 de City Hunter Rebirth, le volume 8 des Mémoires de Vanitas, le volume 1 de My Hero Academia Team Up Mission, le volume 25 de My Hero Academia et le volume 3 de Noise, qui sera le dernier tome de la série. Aux éditions Manabooks, on aura le volume 8 de High Score Girl et le volume 1 de Ni no Kuni. Et aux éditions Le Lézard Noir, ça sera la sortie du volume 6 du Tigre des Neiges et le volume 1 de Tokyo Tarareba Girls. On passe maintenant aux dernières sorties de la semaine. Ça sera pour vendredi 4 septembre avec aux éditions Kana le volume 11 de Banal à tout prix, le volume 9 de Dead Demons Destruction, le volume 3 de First Job New Life, le volume 1 de L'Enfant Ébranlé, le volume 8 de Otaku Otaku, le volume 19 de Seraph of the End et enfin le volume 2 de Walking Cat. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Macbeth de Madame Edwarda, s'il vous plaît. Et on reviendra juste après pour parler culture avec un tribunal japonais qui a reconnu de nouvelles victimes de la bombe d'Hiroshima.
Yeah.
Voilà, donc c'était Macbeth, interprété par Madame Edwarda. On passe maintenant à la partie culture. Mercredi 29 juillet, un tribunal d'Hiroshima a étendu la définition des survivants de l'explosion de la bombe atomique pour y inclure plus de personnes atteintes par ce qu'on a appelé la pluie noire radioactive. Une décision de justice rare, 75 ans après l'attaque nucléaire américaine contre le Japon à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le tribunal du district d'Hiroshima a statué que la totalité des 84 plaignants, allant de septuagénaires à des nonagénaires, devraient bénéficier des prestations médicales accordées aux victimes de ce bombardement, appelé Hibakusha. Après la guerre, le gouvernement avait désigné des zones considérées comme ayant été fortement impactées par le premier bombardement atomique de l'histoire et avait accordé la gratuité des soins médicaux à ceux qui s'étaient trouvés dans ces endroits à l'époque. Les 84 plaignants qui ont été reconnus nouvelles victimes d'Hiroshima, se trouvaient à l'extérieur de ces zones, mais avaient été atteints par la pluie noire qui avait suivi le bombardement du 6 août 1945. Et ils arguaient que les effets sur leur santé avaient été similaires à ceux subis par les personnes qui se trouvaient, eux, à l'époque, dans les zones établies par le gouvernement. Donc il n'y a rien d'irrationnel dans les déclarations de ces habitants, selon lesquelles ils ont été trempés par la pluie noire, a déclaré le président du tribunal, le juge Yoshiyuki Takashima, selon la chaîne de télévision publique NHK. Les documents médicaux montrent que les habitants souffrent de maladies considérées comme liées à la bombe atomique et qu'ils remplissent les conditions juridiques exigées pour bénéficier de l'Hibakusha, a-t-il ajouté. Le système médical japonais est généreux avec les personnes âgées, les plus de 75 ans ne réglant que 10% des coûts de leurs soins, mais cette décision de justice a un caractère hautement symbolique pour ceux qui, depuis de longues années, répètent qu'ils ont eux aussi souffert des effets terribles de l'atome. Après la décision, un homme est sorti du tribunal et a déroulé une bannière clamant « victoire totale », soulevant des cris de joie des plaignants et de leur soutien. Au mois de mars, le gouvernement central reconnaissait que 136 682 personnes bénéficiaient de l'Hibakusha, en comptant ceux de Nagasaki, cible de la seconde attaque nucléaire le 9 août 1945. Quelques 140 000 personnes avaient péri sur le coup et dans les mois suivants à Hiroshima et 74 000 à Nagasaki. Le Japon, après cette décision, a ensuite organisé des cérémonies pendant la première semaine du mois d'août pour marquer le 75e anniversaire de ces deux bombardements. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Kenka de Magic of Life et on reviendra juste après pour la chronique du volume 12 de Cesare. Yummy, no. Donc c'était Magic of Life avec la chanson Kenka. On passe maintenant à la chronique du volume 12 de Cesare. Alors j'espère que vous êtes prêts parce que c'est genre très très long. Alors je rappelle que c'est un seinen de genre biographique, drame historique, dessiné par Soryu Fuyumi, scénarisé par Ara Motoaki et prépublié dans le Morning. La version japonaise est parue aux éditions Kodansha avec un total de 12 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue aux éditions Kiun avec également 12 tomes. Donc ce volume 12 est sorti le 23 janvier 2020 au prix de 7,90€. Le résumé de ce tome, tout pise est en effervescence. Giovanni de Médicis s'apprête à passer son grand oral, ultime étape qui le sépare de la fin de ses études et surtout de son accession au rang de cardinal. Mais sa réussite n'aura pas seulement des conséquences politiques. À la suggestion de Cesare, Angelo se prépare à partir pour Florence, où il est destiné à devenir le nouvel homme de confiance de son excellence. L'avenir des Borgia, des Médicis et de la papauté même repose désormais sur les épaules de Giovanni. Si l'on dit souvent que Cesare est une œuvre à la parution lente du fait de sa grande rigueur historique, ça n'a peut-être jamais été aussi vrai que ces dernières années. L'œuvre était en effet absente des étals de nouveautés des libraires français depuis l'apparition du 11e opus, tenez-vous bien, en septembre 2015. Donc il a fallu attendre presque 5 ans pour avoir la suite. Mais elle fait enfin son retour avec son tome 12. L'éditeur français n'est évidemment pas en cause, le 10 volume étant paru au Japon en juin 2019 seulement. Mais toute cette attente a évidemment une bonne raison. L'œuvre avait connu dans son pays environ 3 années de pause avant de reprendre au rythme d'un chapitre par mois à partir de novembre 2018. Et ces 3 ans de pause, nul doute que la mangaka Fuyumi Soryu, toujours épaulée par l'historien Motoaki Ara, les a utilisés pour effectuer le plus de recherches possible afin d'encore et toujours offrir le récit le plus rigoureux historiquement possible. Et cela s'est sûrement fait à juste titre puisque l'autrice entame avec ce tome le point culminant qui fut préparé depuis le début de la série. On retrouve donc Cesare et les siens dans une situation quelque peu délicate, maintenant que leur précieux allié Lorenzo de Médicis a rendu son dernier soupir en laissant la tête de la famille à son fils aîné Piero. Hélas, là où Lorenzo s'affichait comme un soutien de poids pour Rodrigo Borgia en vue du prochain conclave afin de devenir pape, Piero, n'ayant pas la carrure d'un grand homme politique comme son père, prend une toute autre voie en choisissant de mettre fin à l'alliance tripartite entre la République florentine, le duché de Milan et le royaume de Naples. En laissant Milan en plan pour se rapprocher de Naples et de la lignée des Orsini, il met ainsi en péril l'équilibre tout entier de l'Italie, mais cause aussi des problèmes plus personnels vis-à-vis des attentes au prochain conclave, voulant apporter son soutien à Giuliano della Rovere, le principal rival et ennemi de Rodrigo pour devenir le prochain pape. Il ordonne forcément à son jeune frère Giovanni, tout juste devenu cardinal à seulement 16 ans, de voter en faveur de Giuliano. Cruel dilemme pour le tout jeune cardinal qui, en plus d'avoir perdu son père il y a peu, a déjà tant de poids sur les épaules et doit aussi trahir son mentor, Rodrigo. Sa sainteté Innocent VIII étant lui-même en train de vivre ses derniers jours et le prochain conclave étant donc imminent, Cesare doit donc agir vite pour tenter de maintenir la balance du côté de son père, et cela passe essentiellement par son rapprochement avec un autre groupe important, Sienne et Venise. C'est ainsi que le jeune homme se rend jusqu'à Sienne en vue de rencontrer Giovanni Gonzague, dont le frère aîné dirige les armées vénitiennes. L'enjeu de l'entrevue est simple, expliquer que si les cardinaux votants du camp vénitien votent pour Della Rovere au prochain conclave, il ne fait nul doute que ce sont les armées napolitaines qui prendront la place des vénitiennes et qu'ils auraient donc tout intérêt à plutôt voter pour Rodrigo Borgia. Alors que le cardinal vénitien Michel, mal vu à Venise à cause de ses mœurs, s'est déjà visiblement rangé du côté de Della Rovere, quel rôle aura l'autre vénitien parmi les votants, le seigneur Maffeo Gherardi, tout juste nommé cardinal à 86 ans, mais ayant toujours été remarqué par sa sagesse. La première partie de ce volume est assurément bien construite et très fluide dans ses explications. On y comprend très aisément tout des questions autour des alliances, rivalités et fissures entre les villes italiennes, mais aussi des petites stratégies visant à ranger certains visages dans le camp de Rodrigo en vue du prochain conclave. Qui plus est, les choses ne sont jamais lourdes car Soryu a la très bonne idée de passer par différents personnages pour amener ses explications entre Cesare, Angelo qui se prépare à accompagner Giovanni à la curie romaine et ne pouvant qu'observer avec impuissance son tiraillement intérieur, ou même Lucrezia qui, en plus d'amener une touche féminine, cherche elle aussi à comprendre. Tout est donc clair et prenant jusqu'au début de l'événement tant attendu par tous, celui ayant peut-être poussé la mangaka à faire sa longue pause. Pour se documenter plus que jamais, il s'agit du conclave de 1492. Innocent 8 finissant par s'éteindre et Cesare ayant fait tout ce qu'il pouvait dans l'urgence pour appuyer son père, désormais l'heure est au vote en huis clos au cœur de la chapelle Sixtine et de ses pièces adjacentes, les 23 cardinaux étant seulement accompagnés de leurs suivants, donc Angelo pour Giovanni. Désormais seul Dieu sait ce qui se déroulera durant celui-ci, voué à durer plusieurs jours jusqu'à ce qu'un nom se dégage aux deux tiers. Le déroulement d'un conclave au niveau des votes étant toujours, depuis toujours gardé complètement sacré, il était évidemment impossible pour Sorio et Ara de savoir précisément comment a pu se dérouler celui de 1492, mais ce que les deux auteurs imaginent se veut déjà assez prenant, tant on y ressent bien les premiers rapports de force installés et les stratégies s'immiscer tout doucement en vue de rallier tel cardinal à sa cause pour ce qui sera un véritable jeu d'intrigue politique, surtout quand on sait à quel point la papauté était puissante à cette époque. Le côté rustre et brut de Della Rovere étonnamment bien utile dans un cas comme ça, l'incertitude de Giovanni, le rôle de Michel, le choix de Gherardi ne sont que quelques-uns des éléments rendant les premiers votes intéressants, car bien que ceux-ci semblent d'abord un peu décousus, ils permettent surtout à chacun de jauger le terrain. Qui plus est, Sorio entrecoupe tout ceci de sorte de pause, un peu plus équestre du côté de Cesare, ce qui n'empêche pas celui-ci de lâcher quelque chose de très intéressant en toute dernière page du volume. Je vous en dirai pas plus. Le tant attendu et tant redouté conclave de 1492 commence donc enfin ici, et s'il est sûrement très loin d'être fini, il intéresse déjà beaucoup, les auteurs ayant bien préparé les choses. De plus, la mangaka n'est pas avare en explications concernant le déroulement même des votes et la façon dont doivent vivre les cardinaux et leurs suivants pendant le conclave. De plus, en fin de tome, Motoaki Ara nous offre quelques pages bonus expliquant encore plus en détail ce que représente le conclave, les particularités de celui de 1492, le quotidien des cardinaux, tout le contexte politique, et il nous fait également des petites présentations plus détaillées de certains cardinaux. Et la bonne nouvelle dans tout ceci, c'est que la mangaka devant sans doute dessiner toute cette partie sur le conclave à la suite, nous devrions logiquement attendre le volume un petit peu moins longtemps. Voilà, en espérant que ça ne dure pas 5 ans cette fois aussi. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est le 7e ending de l'animé Digreyman Regret, interprété par Mai Oshimura, et on viendra juste après pour une actualité au Japon. c'était Mai Hoshimura avec la chanson Regret qui a servi de 7e ending pour l'anime Digimon. On passe maintenant à l'actualité au Japon. Le premier ministre japonais Shinzo Abe, en poste depuis fin 2012, a annoncé vendredi dernier son intention de démissionner pour des raisons de santé, ayant été rattrapé par une maladie inflammatoire de l'intestin qu'il avait déjà forcé à quitter le pouvoir en 2007. Le premier ministre de 65 ans, qui vient de battre le record de longévité à son poste, avait déclaré lundi dernier avoir repassé des tests médicaux dans un hôpital de Tokyo pour la deuxième fois en 8 jours, relançant ainsi les spéculations sur sa capacité à gouverner. Un hebdomadaire nippon avait par ailleurs récemment affirmé que Shinzo Abe aurait craché du sang début juillet, et les médias avaient aussi relevé qu'il n'avait plus donné aucune grande conférence de presse pendant plusieurs semaines. Sa démission est un grand bouleversement dans la vie politique japonaise, alors qu'il n'a pas de successeur évident. Ces derniers jours, le porte-parole du gouvernement Yoshihide Suga avait par ailleurs tenté de balayer les spéculations sur un départ précipité. Ce fidèle du Premier ministre avait encore répété vendredi matin s'attendre à ce que Shinzo Abe annonce au contraire son intention de travailler dur tout en se soignant, et avait réaffirmé ne pas avoir vu de signe d'altération de sa santé lors de ses entrevues quotidiennes avec lui. Les observateurs s'attendaient aussi à ce que Shinzo Abe veuille rester à son poste jusqu'au terme de son 3e et dernier mandat de président du Parti libéral-démocrate, qui était prévu en septembre 2021. Shinzo Abe avait déjà dû quitter le pouvoir au bout d'un an en 2007, notamment à cause de cette maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Alors, c'est la rectocolite hémorragique ou colite ulcéreuse, voilà. L'indice Nikkei de la bourse de Tokyo a brièvement décroché de plus de 2,6% après cette déclaration de Shinzo Abe, et le yen s'est apprécié sensiblement face au dollar. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, View of Afternoon Part 2 de Main Street, et on viendra juste après pour finir l'émission avec une news musicale.
그대도 웃고 지내길 바래요. 가끔 내가 생각나면 바람결에 전해요. 그대 맘 내게로 날아와서 기분 좋은가 봐.
Donc c'était Main Street avec la chanson View of Afternoon, la part 2. On va maintenant finir l'émission avec une news musicale. C'est le 13 août dernier que Tokyo GN est revenu sur le devant de la scène avec un nouveau single digital intitulé Aka no Domei. Cette sortie contient 3 chansons, toutes écrites par Shina Ringo. Izawa Ichiyo a composé les 2 premières chansons, tandis que Kukigumo a travaillé sur la dernière. Le titre Aka no Domei a été choisi afin de servir de chanson thème pour le drama de Nippon TV Watashi Tachi wa Doko Shiteiru, dans lequel on pourra voir au casting Yokohama Ryusei et Amabe Minami. Le single contient donc les titres Aka no Domei, Meijitsu Tomoni et Yokuza no Wana. A noter qu'un autre titre de Tokyo GN, le titre Ao no Heidi, a été choisi comme chanson thème pour le film Sakura. La sortie de ce dernier est prévue pour le 13 novembre prochain et aura au casting Kitamura Takumi du groupe Dish. On aura aussi Komatsu Nana et Yoshizawa Ryo. Et pour le moment, il n'y a pas encore de date de sortie annoncée pour cette chanson. Voilà, donc on va pouvoir s'écouter Aka no Domei de Tokyo GN pour finir l'émission. Demain matin, vous retrouverez Philippe pour la matinale de 7h à 10h et de 10h à 11h30 pour l'émission Bonjour, ça sera Roland. Moi, vous pourrez peut-être me retrouver vendredi prochain de 18h30 à 19h pour l'émission Cordialement Geek. Sinon, ça sera lundi prochain de 21h à 22h pour une nouvelle émission Asian Bubble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt.
きっと全人類手を取り合えるように